Évariste Pigeon est assis sur la couchette de sa cellule. Valérie reste debout près de la porte. Le commandant a demandé à Pélissier, le directeur du centre pénitentiaire, de couper tous les micros et toutes les caméras. On ne l'a jamais tenté, a-t-il argumenté, depuis sa première vision sur le port du Petit Canal, devant les marches des esclaves. Il a toujours été surveillé, encadré par des flics, filmé. Peut-être qu'il parlera en tête à tête. D'homme à homme, qu'est-ce qu'on risque? Serge Pélissier a accepté. Après tout, s'il a lui aussi eu vent de rumeurs concernant le commandant, c'est toujours Cancel qui pilote l'affaire. Et voir en permanence une vingtaine de journalistes tourner devant les murs de sa prison commence à l'agacer. Vivement que le quimboiseur balance tout ce qu'il sait ou soit libéré. Valéric s'avance vers Évariste. Le vieil homme est assis au bord du lit, comme on le serait au bord d'un précipice. Il paraît pouvoir basculer à chaque instant. Dos trop courbé, fesses maigres à peine posées, mains tremblantes incapables de le rattraper. Ses yeux peinent à rester ouverts. Ses paupières paraissent écraser ses joues à chaque fois qu'elles se ferment, creusant un peu plus son visage à chaque clignement. Un plateau de petit déjeuner est posé à ses pieds. Évariste n'y a pas touché. Selon Pélissier, il ne s'alimente plus. Valéric doit admettre que Célanie, le crame et sa horde d'avocats ont raison. Son grand-père est malade. Son état de santé se dégrade. Il devra minima être hospitalisé. La stratégie d'isolement n'a rien donné, sinon semer encore davantage le doute. Et s'il n'y avait pas un truc, pas de truc, et si Évariste sentait réellement la présence de la mort? Le commandant s'arrête devant le quimboiseur. Il a l'impression de se tenir devant un enfant mutique. Il s'accroupit à hauteur de ses yeux noirs. Nous sommes seuls, Évariste. Personne ne nous voit, personne ne nous entend. Si tu veux parler, c'est le moment. Tu as déjà essayé, tu as tenté de nous avertir, mais pour quel résultat? Tu n'es parvenu à empêcher aucune mort. Alors parle, Évariste, parle si tu veux que toute cette folie s'arrête. Évariste tangue. Il paraît à peine entendre la tirade du commandant. Perdu dans un monde où il déjeune avec la mort. Valéric résiste à l'envie de le prendre par les épaules, à le secouer. Qui t'a dit pour la robe aux papillons bleus et pour l'odeur de goyave? Ce n'est pas moi, alors qui? Le commandant, toujours accroupi, observe les micros, les caméras, les enceintes fixées aux quatre murs de la chambre de verre. Le poste central, unique lien avec la cellule, est gardé jour et nuit. Il refuse d'imaginer une complicité interne, la corruption d'un membre du personnel de la prison. D'ailleurs, toutes les bandes vidéo sont enregistrées et ont été visionnées. Même la plus rusée des taupes n'aurait pas pu entrer en contact avec Évariste. Les yeux d'Évariste se sont brusquement allumé. Deux lasers noirs dans un écran blanc. Un instant, Valérie pense avoir convaincu le détenu, mais l'éclat de sa pupille dilatée le traverse, comme s'il n'existait pas. Je vois un champ de canne à sucre, à perte de vue. Le policier, toujours en appui sur ses cuisses, sans ses muscles se détaniser. Il ne doit pas bouger, il doit rester ainsi, regard contre regard, ses yeux clairs à quelques centimètres des yeux noirs, même si Évariste regarde bien au-delà. Je vois une habitation, une très grande habitation. Les pupilles d'Évariste semblent déjà s'éteindre. Le commandant doit en savoir plus. L'idée est couverte de champs de canne à sucre. La moitié des maisons, gîtes, musées ont pris le nom d'habitation. Il s'efforce de maîtriser sa voix. Décris-la-moi. Je sens la chaleur aussi, il fait chaud, tellement chaud. Oui, très chaud, plus de 29 degrés aujourd'hui. Parle-moi de l'habitation, donne-moi des détails. Je vois un toit rouge, un balcon de bois blanc. Je vois une cheminée d'usine derrière l'habitation, plus haute que les palmiers. Une sucrerie, pense immédiatement Valérie. Il y en a peu dans l'île qui ont conservé la cheminée de leur distillerie. Sois plus précis. Y a-t-il un nom, un lieu, la mer à proximité, une rivière? Il n'y a rien. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Un éclair foudroie Valérie. Une entaille béante dans son cerveau. Un coup de poignard à crâne ouvert. Une habitation. Un champ de canne à sucre. Des images réapparaissent devant ses yeux, crues, nues. La mort est là, continue de prophétiser Évariste. Elle rôde, elle mord, elle frappe plusieurs fois, tant de fois. Pour ne pas perdre l'équilibre, Valéric pose les deux mains à plat sur le sol. Des gouttes de sueur coulent le long de ses tempes. La cellule est devenue un four incandescent. Je vois un uniforme de policier. Il va mourir, il... Et... Tais-toi, hurle une voix dans la tête de Valérie. Tais-toi! Il y a les yeux clairs, les cheveux clairs aussi. Il est créole, mais différent. C'est un chabin. Les yeux d'Évariste s'animent soudain, paraissant sortir d'un profond sommeil et apercevoir... Pour la première fois, les murs gris de la cellule, la porte d'acier, les caméras braquées, et l'homme accroupi à quelques centimètres de lui. Son regard noir scanne le visage de Valéric. Le quimboiseur ne semble pas croire ce qu'il voit. Ses mains tremblantes touchent la peau du policier, comme pour vérifier s'il existe vraiment. C'est vous, c'est vous le prochain mois, comme commandant.